Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous à l'écoute de ce bulletin d'informations. Au sommaire, aujourd'hui, suite à l'audience de Věra Jourová au Parlement européen, les députés ont soumis plusieurs dizaines de questions supplémentaires. Le référendum sur l'interdiction des machines à sous à Lovosice se tiendra en même temps que les municipales et les blessés lors d'une intervention policière au parc de Šumava portent plainte contre les agents de police. Věra Jourová, qui devrait devenir commissaire européenne en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l'égalité des sexes dès le mois prochain, prépare avec son équipe des réponses écrites à plusieurs dizaines de questions supplémentaires qui lui ont été posées par les eurodéputés en aval de son audition ce mercredi. La candidate tchèque devrait soumettre ses réactions avant dimanche soir. Les eurodéputés se prononceront sur le sort de son audition mardi à la lumière des éléments complémentaires que Věra Jourová leur aurait apporté à l'écrit. La Cour administrative suprême a décidé ce vendredi que le référendum portant sur l'interdiction des machines à sous à Lovosice en Bohême de l'Est se tiendra en même temps que les élections municipales. La Cour a ainsi refusé la plainte de la mairie de la ville qui souhaitait avoir deux dates pour ses votes afin de diminuer les coûts d'organisation des scrutins. Néanmoins, les juges ont décidé que le concours de ces votes accroît potentiellement la participation électorale, ce qui prévaut sur des considérations économiques. Le même verdict a été émis ce jeudi dans un cas analogue opposant la mairie de Štětí, une commune située à la proximité de Lovosice, aux acteurs de la pétition contre les machines à sous. Pour qu'un référendum soit valide, il faut une participation dépassant les 30%. 4 personnes blessées en 2011 lors de l'intervention policière contre une action des militants écologistes qui protestaient contre l'abattage d'arbres malades du fait du scolyte dans le parc national de la Šumava réclament réparation. Ils avaient déjà porté plainte contre la violence policière en 2011, mais la direction régionale de la police l'avait rejetée sur la base du manque de preuves. Pourtant, l'incident était filmé par 2 caméras. Leur plainte intervient dans le contexte du récent verdict du tribunal régional de Plzeň qui a déclaré légale la mobilisation citoyenne pour la protection des arbres au parc de la Šumava. Partisans de la non-intervention humaine dans l'écosystème de ce parc, les écologistes protestent régulièrement contre l'abattage des arbres malades du fait du scolyte. La société des mines de Bohême du Nord, filiale du géant énergétique ČEZ, société nationale tchèque de production et de distribution d'électricité, prépare le licenciement d'environ 350 personnes, ce qui correspond à 6% de ses employés. La direction se justifie par les dépenses plus élevées pour l'énergie ainsi que pour le maintien de l'équipage vieillissant. Cette annonce de licenciement intervient au moment où en 2013, la société des mines a enregistré les plus grands bénéfices depuis 1980. Et cela à hauteur de 5 milliards de couronnes, ce qui correspond à 185 millions d'euros. Selon un représentant des syndicats des mines, les employés craignent tellement la perte d'emploi qu'ils n'envisagent même pas de mobilisation contre ces licenciements. La région de Chomutov enregistre déjà un taux de chômage d'environ 11%. Le musée de la région de Kroměříž en Moravie s'apprête à restaurer la tombe de la baronne écrivaine allemande d'origine morave, Marie Ebner von Eschenbach, née baronne Dubska, qui se trouve dans la commune de Zdislavice. Les fondements de sa tombe du style classique, construite dans la deuxième moitié du 19e siècle, ont été endommagés et risquent de s'écrouler. Le musée voudrait que la tombe soit ouverte au public pour les 100 ans depuis la mort de l'écrivaine en 2016. Relativement inconnue en République tchèque, elle est considérée comme l'écrivaine la plus importante du 19e siècle. Et nous terminons sur un mot de météo. Samedi, jour de la fête des František, le ciel est partiellement couvert en Bohême et les averses sont à prévoir en Moravie du Sud. Les températures vont de 15 à 18 degrés pour les maximales. Et sur cela, Lucie Drexová vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Notre programme se poursuit avec le magazine d'actualité tchèque avec Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque en langue française. Je tiens tout d'abord à remercier Lucia Drexlova pour son bulletin d'information. Plusieurs sujets figurent au programme aujourd'hui. Dans le cadre du traditionnel festival des écrivains qui a débuté ce jeudi, nous allons vous présenter la deuxième partie de l'entretien réalisé avec le directeur adjoint et porte-parole du festival, Guillaume Basset. Par la suite, nous allons nous intéresser aux journées de l'architecture qui se tiennent ce week-end dans une cinquantaine de villes en République tchèque. Et nous allons clôturer nos sujets d'actualité par du sport, et plus précisément par le match de football qui a lieu ce jeudi à Prague entre le Sparta Prague et les Young Boys de Berne. Et comme de tradition, cette journée de vendredi, notre émission se terminera par la revue de presse qui sera signée Alena Gebertova. Vous écoutez Radio Prague, excellente écoute à toutes et à tous. José Salmago, Harold Pinter, Erta Müller, Nadine Gordimer, Vole Soinka, Gao Xinjiang, Derek Walcott, Orhan Pamuk, pour ne citer que les prix Nobel et bien d'autres encore. Les auteurs de renom passés à Prague depuis 1990 ont été nombreux. Si la liste est trop longue pour les citer, tous ont cependant un point commun. Avoir été invités dans le cadre du Festival de Prague des écrivains. Longtemps événement culturel et intellectuel de première importance en République tchèque, l'existence du festival est néanmoins aujourd'hui menacée par le désengagement financier des institutions publiques. Une dure réalité économique qui, malgré tout, n'empêche pas les organisateurs de continuer à mettre sur pied un programme digne de la riche histoire du festival. Son directeur adjoint, Guillaume Basset, a expliqué pourquoi et comment au micro de Guillaume Narguet.
Prague, effectivement, a toujours cette image magique d'une ville très culturelle, littéraire, que les gens connaissent toujours par les livres. Effectivement, on pensera tous à Kafka ou à Kundera, qui est effectivement très connu aussi au Maroc, mais dans le monde entier. Je ne désespère pas qu'il ait enfin le prix Nobel de littérature. Donc, en général, ils sont toujours très, très intéressés par l'idée de venir. Et je maintiens par l'idée de découvrir, d'utiliser cette venue pour découvrir une culture qu'ils connaissent vaguement, dont ils ont en rêve qui apparaît cette Prague magique, et donc ils vont pouvoir enfin se confronter à la réalité. Je me rappelle de Gao Xinjiang, prix Nobel de littérature, qui était venu en 2009, dont le livre avait été publié juste après, qui avait passé son séjour entier à courir dans Prague, à prendre des photos, à rencontrer des auteurs. Il était fasciné. Donc en général, les auteurs sont très très intéressés par ce côté de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Autre invité de marque pour cette année, Svetlana Alexievitch.
Svetlana Alexievitch est un auteur infiniment politique. Ce n'est pas une écrivaine au sens traditionnel du terme, puisqu'elle n'est pas romancière, elle n'est pas poète. Elle écrit des essais. Elle écrit essentiellement des essais sur la situation en Russie et en ex-URSS. Svetlana Alexievitch est absolument dans l'actualité, vu qu'elle écrit énormément sur Vladimir Poutine, dont on ne puisse pas dire qu'il se fasse discret sur la scène internationale à l'heure actuelle, surtout que Svetlana Alexievitch est effectivement biélorusse, mais l'un de ses parents est ukrainien. Donc c'est une question qui la touche très particulièrement, et elle n'aura évidemment beaucoup de choses à dire sur la situation actuelle.
On est obligé d'en parler. Le festival se limite cette année, comme l'année dernière, seulement à deux jours et demi, alors qu'avant c'était une semaine. Alors comment se porte ce festival ?
Pas très bien, il n'y a pas à mentir. Nous avons souffert l'année dernière d'une coupe de 90% par la mairie de Prague, qui était notre partenaire principal. Vous imaginez bien que des coupes, tout le monde est habitué à ça, mais 90%, c'est quasiment un coup de grâce. Nous avons pu sauver le festival l'année dernière. Malgré ça, nous avons quand même pu avoir Orhan Pamuk, un festival coupé 90% qui a été quand même un prix Nobel de littérature. Ça se produit pas souvent. Cette année, nous avons failli ne pas faire le festival. C'est vraiment à la dernière limite. Nous sommes arrivés à trouver le soutien notamment du Sénat. Et au dernier moment aussi, Tomáš Hudeček, l'actuel maire en tout cas, a réalisé, si vous voulez, un peu tardivement, mais malgré tout quand même, l'importance du festival, et est revenu à de meilleurs sentiments, même si la situation n'est toujours pas la même qu'elle était avant. Effectivement, nous sommes passés d'un festival d'une semaine avec 14 auteurs à un festival en deux temps, deux jours pour le Maroc, un jour pour Svetlana Alexievitch, avec seulement 5 auteurs marocains, une seule auteure biélorusse. Le festival est toujours à la limite de l'existence, mais nous battrons encore et toujours pour qu'il continue à exister. Je pense, non pas simplement d'ailleurs en tant que directeur adjoint, mais surtout, même en tant qu'amoureux de la littérature et des idées, même si je ne travaillais plus pour le festival, j'aimerais que ce festival continue à exister. Je pense que c'est essentiel dans un pays qu'il y ait effectivement un tel genre de débat d'idées et de découvertes d'auteurs différents. Je pense que nous ferons tout pour que ça continue et que nous y arriverons.
Les journées de l'architecture qui se tiennent ce week-end dans une cinquantaine de villes en République tchèque proposent au public de découvrir l'architecture à travers diverses manifestations variées. Les amateurs d'architecture peuvent ainsi participer à des promenades guidées, à des projections de films ou à différents workshops destinés à toute la famille. Le sujet est signé Ashbeta Ticha.
Avec pour l'objectif d'éveiller l'intérêt du public pour l'architecture et l'endroit où les gens vivent, cette quatrième édition des Journées de l'architecture est intitulée « Dans les rues, entre les maisons ». Au total, seront proposées pas moins de 115 promenades guidées menées par des architectes et des historiens de l'art. Organisé par l'association Krug, le festival entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'architecture qui sera célébrée le 6 octobre. À travers cet événement, l'association Krug s'efforce de présenter au public les qualités et les problèmes cachés de la vie en ville. Un des thèmes centraux choisis pour cette année est l'architecture des grandes cités et barres d'immeubles érigées sous l'ancien régime que l'on trouve à l'approche de la grande majorité des villes tchèques. Ainsi, le public peut découvrir les beautés d'endroits comme Ďáblice, Prosek, Řepy ou Pankrác à Prague ou Lesna à Brno. Architekt a organizatrice du festival Marcela Steinbachová explique ce choix.
Aujourd'hui, près de 25% de la population pragoise vit dans ces cités. Pourtant, ces immeubles ne sont pas le pire d'un point de vue architectural. Ils proposent un nombre considérable d'avantages tels que des espaces verts ou des œuvres artistiques dont personne ne s'occupe plus de nos jours. Il est donc nécessaire de trouver les avantages de ces cités et c'est précisément ce que les théoriciens et les historiens qui guident les promenades essayent de transmettre au public.
Les curieuses auront aussi l'occasion unique de visiter des espaces autrement inaccessibles, comme les intérieurs de l'ancienne usine La Fabrica à Prague, qui servent maintenant de salle culturelle ou la faculté d'informatique de l'université Masaryk à Brno. Une importante partie du programme est consacrée également aux traces de l'industrialisation. À Ostrava, par exemple, la promenade guidée mène dans la mine de Dolní Vítkovice. Les journées de l'architecture n'oublient pas pour autant le côté historique des villes. Ainsi, il est possible de visiter le centre de Znojmo, České Budějovice ou Český Těšín, de participer à une excursion dans les jardins de Kroměříž inscrit au patrimoine de l'UNESCO ou encore d'écouter l'histoire des ponts à Olomouc. À Prague, les promenades permettent de découvrir les endroits perdus de Vinohrady ou le quartier de Bubeneč du début du XXe siècle. Marcela Steinbachová en dit plus.
Outre les promenades dans les cités, nous nous intéressons à l'architecture des villes thermales comme Mariánské Lázně, Jeseník ou d'autres encore. Et à Prague, concrètement, le programme qui pourrait retenir l'attention du plus grand nombre de gens est la promenade consacrée aux anciennes maisons closes du vieux centre-ville. Puis, pour les amateurs de nature, nous avons préparé une promenade ornithologique qui nous présente les oiseaux qui vivent dans la ville et leurs conditions de vie à proximité des habitations. Le programme est donc bien chargé et chacun peut choisir ce qui l'intéresse.
Les journées de l'architecture se sont ouvertes jeudi 2 octobre avec une conférence au cinéma Světozor à laquelle ont participé Adam Caruso, architecte londonienne de renom, et Laura Stalder, professeur d'histoire et de théorie de l'architecture à Zurich. Le programme s'accompagne aussi d'autres événements, projections de films, expositions de photographies dans une salle mobile installée provisoirement à Brno ou une course dans l'escalier Vlastaburian à Liberec. Les cyclistes, eux, peuvent assister aux cyclopromenades à Jablonec nad Nisou, à Malešice ou à Prague sur les traces du tunnel Blanka. Enfin, le programme n'oublie pas les familles, pour lesquelles des workshops éducatifs sur le thème de l'architecture dans la ville sont proposés.
Auteurs d'une excellente prestation, les joueurs du Sparta Prague sont logiquement venus à bout jeudi soir devant leur public des Suisses des Young Boys Bern sur le score de 3 à 1. Après leur défaite sur ce même résultat face à Naples lors de la première journée, le club de la capitale, dernière équipe tchèque en lice dans une compétition européenne cette saison, a remporté ses 3 premiers points en phase de poule de la Ligue Europa, se relançant ainsi de belle manière dans la course à la qualification. Un reportage de notre envoyé spécial Pierre Mignan qui était de la partie.
Corner frappé à la 27e minute, Lukas Vacha amortit le ballon du genou à l'entrée de la surface de réparation et enchaîne avec une superbe volée qui vient se loger sous la barre transversale du jeune portier bernois Yvonne Mvogo. Encore sous le choc de ce but magnifique, les Suisses en encaissent un second dans la foulée, œuvre du capitaine spartiate David Lafata à la conclusion d'un beau mouvement collectif. À la mi-temps, sur ce score mérité de 2 à 0, la messe semble être dite. Pourtant, à la reprise, les Young Boys affichent de meilleures attentions et Guillaume Hoaro, titularisé pour la première fois de la saison à la pointe de l'attaque suisse, réduit le score d'une jolie tête. À l'issue de la rencontre, l'attaquant français ne pouvait se satisfaire de sa bonne performance individuelle.
On va pas sortir le cas perso de naufrage. Je veux dire, quand on perd tous ensemble. Donc après, la satisfaction pour un attaquant, c'est de marquer des buts. Maintenant, voilà. C'est anecdotique, il faut continuer à bosser et puis moi faire en sorte d'aider l'équipe à chaque match. Donc si je marque, tant mieux.
Vainqueur facile du Slovan Bratislava 5-0 lors de la première journée de la poule I, les Suisses venaient chercher au moins le point du nul à Prague. Mais David Lafata a définitivement ruiné cet espoir à la 85e minute en poussant le ballon dans le but vide et en inscrivant ainsi son second but. Un bon nombre de Suisses avaient fait le déplacement pour supporter leur équipe et malgré la défaite, c'était une bonne soirée pour Vincent.
C'était intéressant, on vient de Suisse et puis je me réjouissais de ce match. Après, voilà, c'est une défaite pour les Young Boys. Mais l'ambiance était sympa, franchement. Malgré que ce soit un stade un peu vétuste, y a de l'ambiance et puis on a bien savouré ce moment.
Son camarade Lucien fait même l'éloge du jeu produit par l'équipe tchèque, vainqueur de la dernière saison du championnat national.
Moi, j'ai trouvé qu'ils pratiquent un très beau football. Hein. Franchement, c'était sympa et puis... Ouais, c'était le football champagne et puis super premier but. Hein.
Auteur d'une bonne prestation, l'ailier du Sparta, Tiemoko Konate, insistait pourtant de son côté plus sur la victoire que sur la performance de son équipe.
Nous avons perdu le premier match, voilà, et on avait à cœur de bien jouer ce match et de le remporter. Et puis en Europa League, le plus important, c'était pas de bien jouer, mais c'est de prendre le maximum de points, tu vois.
Une philosophie de jeu que l'Ivoirien compte bien appliquer lors de la prochaine rencontre de Ligue Europa en Slovaquie contre le Slovan Bratislava qui vient de subir une seconde défaite face à Naples 2 à 0 sur ses terres.
Je pense que ça sera un match difficile. Ben, comme je le dis, en compétition, il y a pas que le bon jeu, tu vois. C'est de chercher à gagner, peu importe la manière, tu vois, c'est de gagner.
Donc l'objectif, voilà, c'est de jouer le plus mal possible mais de gagner.
Si c'est nécessaire, voilà, je vois pas d'inconvénient. Le plus important, c'est de gagner.
Dès dimanche, le Sparta Prague aura l'occasion d'éprouver cette stratégie en championnat avec la réception du Slovan Liberec et ainsi de ne pas laisser le Viktoria Plzeň faire le jeu en tête.
Passons à présent à notre rubrique « Miroir de la société ». Le 25e anniversaire de la fin des régimes communistes en Europe centrale et orientale est une occasion pour les éditorialistes tchèques de réfléchir sur les différents aspects de cet événement majeur de la fin du XXe siècle. Pour cette revue de presse, nous en avons retenu un exemple. Et l'audition mercredi dernier de la candidate tchèque à la Commission européenne, Věra Jourová, devant les députés européens, a été aussi largement commentée. Nous avons également retenu un article sur l'importance de la solidarité avec les dissidents et les militants vivant dans des pays autoritaires qui demeurent pourtant en marge de la grande actualité mondiale. Et les prochaines élections communales est le dernier sujet auquel cette revue de presse est consacrée. Plus d'informations avec Alena Gebertová.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le 30 septembre 1989 est la date qui a marqué le début de l'exil massif de ressortissants de l'Allemagne de l'Est vers l'Ouest avec la Tchécoslovaquie comme pays de transit. Dans un article publié dans le quotidien économique Hospodářské noviny, Jindřich Šídlo a mis cet événement, dont le 25e anniversaire a été ces jours-ci commémoré par toutes sortes de manifestations, organisées notamment par la partie allemande, en rapport avec la chute du régime communiste survenu dans l'ancienne Tchécoslovaquie quelques semaines plus tard. Il note à ce sujet.
Pendant encore un certain temps, nous pouvons nous bercer de l'illusion que la révolution tchécoslovaque de novembre 1989 a représenté un événement que le monde a suivi le souffle coupé. Mais à parler franchement, tel n'était pas le cas. Il s'agissait d'un joli happening, assez rapide et joyeux, guidé par un leader charismatique, il est vrai, mais cela a été en même temps l'un des derniers se déroulant en Europe de l'Est. Il suffit de rappeler que même le tyrannosaure bulgare Todor Ivkov avait démissionné une semaine avant le 17 novembre, pendant que la Pologne avait à l'époque à son actif des élections semi-libres et Berlin se présentait désormais comme une ville unie.
Pour Jindřich Šídlo, Prague représentait tout simplement, à l'automne 1989, une des références photogéniques s'inscrivant dans la Freedom Tour à travers l'Europe de l'Est, menée par les journalistes du monde entier. D'un point de vue global, c'est à la fin septembre que Prague, bondée de voitures Trabant, conduites par des ressortissants de la RDA sur le chemin vers la RFA, a connu un des chapitres clés marquant la fin de la guerre froide. Dans ce contexte, l'auteur de l'article signale.
Le peu d'intérêt que les élites politiques tchèques ont consacré au rappel de cet anniversaire peut paraître surprenant. On n'a enregistré aucune déclaration solennelle de la part du président Miloš Zeman ou du premier ministre Bohuslav Sobotka. Mais il se peut que le 30e anniversaire de cet événement leur offre enfin une meilleure occasion pour cela.
C'est également dans le quotidien Hospodářské noviny qu'on a pu lire un texte réagissant à l'audition ce mercredi de Věra Jourová, candidate tchèque à la Commission européenne, devant quatre comités du Parlement européen. En attendant le résultat issu de cette audition, prévue pour la semaine prochaine, Petr Fischer a écrit.
Věra Jourová vient de passer son baccalauréat politique car lors de son audition devant les députés européens, elle a non seulement avoué qu'elle était une femme politique, ce qui n'est pas évident pour les membres du mouvement ANO dont elle faisait auparavant partie, mais elle s'est également comportée comme telle. La future commissaire pour le vaste portefeuille de la justice, de la protection des consommateurs et de l'égalité des sexes a répondu patiemment même à des questions très détaillées. Calme et sereine, elle a déployé beaucoup d'efforts. Il va de soi que Věra Jourová n'a pas été convaincante en tout point. Mais comme elle fait preuve d'une certaine réserve en public et comme elle est plutôt accueillante et humble, les députés européens ont pu lui pardonner certaines choses.
Tout indique en tout cas, comme le souligne Petr Fischer en conclusion, que Věra Jourová ne se perdra pas à Bruxelles, malgré le fait qu'elle souhaitait sans doute initialement obtenir un autre portefeuille. Dans un article publié sur le site respect.cz, Jan Machacek explique pourquoi il faut saluer le fait que le prix Václav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe, en partenariat avec la bibliothèque Václav Havel et la fondation de la Charte 77, ait été attribué cette année au militant azerbaïdjanais Anar Mamadli, lequel a fondé le Centre pour l'observation des élections et pour la démocratie dans son pays natal et a notamment contesté la victoire électorale de l'actuel chef de l'État Ilham Aliyev. Nous citons.
D'abord, c'est parce qu'Anar Mamadli se trouve en ce moment en prison. Dans ce sens, le prix se présente comme un prix par excellence avélien, étant donné qu'également l'année dernière, le prix a été attribué à un dissident à l'époque emprisonné, le Biélorusse Ales Bialyaki. La reconnaissance apportée à des détenus semble devenir une sorte de bonne tradition. L'ancien président tchèque et nombre de ses amis dissidents tchèques ont pu se convaincre de l'importance de la solidarité venue de pays libres et de la médiatisation de ces cas concrets dans le monde libre. Lors de son mandat présidentiel et même après, Havel a continué à exprimer sa solidarité et ses sympathies aux militants emprisonnés et persécutés, ne serait-ce que sous forme de lettres ouvertes.
Jan Maracek remarque que cette forme de reconnaissance publique peut avoir un effet concret, ce que prouve la libération du dissident biélorusse suscité très probablement suite à l'attribution du prix Václav Havel. Selon lui, cependant, la principale importance de cette distance réside ailleurs, il précise.
Ces derniers temps, le monde a radicalement changé. Nous sommes confrontés à des dangers très grands, sinon gigantesques. Voilà pourquoi il faut se demander pourquoi distinguer un détenu politique ou un militant qui vit dans un pays qui est autoritaire, il est vrai, que cela soit en Azerbaïdjan, en Biélorussie ou à Cuba, mais qui n'est pas agressif et qui ne menace pas d'autres pays. Mais c'est pour cela justement qu'un petit dissident ou militant civique mérite d'être remarqué, car dans le cadre de grandes menaces globales et de nouveaux conflits militaires, il risque d'être oublié par le monde libre.
Beaucoup d'articles dans les médias sont consacrés aux élections communales en République tchèque qui auront lieu les 10 et 11 octobre prochains et à la campagne qui les précède. Dans un article publié sur le site echo24.cz, Petr Holub remarque.
La campagne avant les élections communales montre une nouvelle dimension qui risque de décourager les électeurs et qui témoigne de la transformation fondamentale subie par la société au cours des 25 dernières années. Dans les années 1990, les gens savaient très bien à quoi et à qui ils donnaient leur voix, car le fossé idéologique entre la droite et la gauche était presque infranchissable. L'ancien était confronté au nouveau, pendant que les défenseurs de la liberté et d'une économie libérale luttaient contre les communistes et les crypto-communistes demandant plus de certitude. Aujourd'hui, et cela concerne en particulier les élections communales, le clivage entre la gauche, le centre et la droite s'efface. Les partis semblent vouloir l'accentuer en présentant presque tous leurs candidats sur les affiches dans la même posture. Or, peu importe le choix fait par l'électeur, le nouveau maire, qui qu'il soit, portera une chemise à col ouvert.
Cette situation profite aux nouveaux partis et mouvements qui n'ont pas une orientation idéologique prononcée, mais qui disposent d'un marketing de qualité, comme le mouvement ANO de Andrei Babiš. Dans un article publié sur le serveur ihnet.cz, son auteur Jiří Leština estime, pour sa part, que les élections communales vont s'inscrire dans l'histoire par leurs accents xénophobes ouverts. Il écrit.
Il y a encore 4 ans, les candidats voulaient dissimuler leurs messages racistes par des slogans ambigus. Aujourd'hui, ils proclament ouvertement que l'on va chasser les éléments de la rue, que Ostrava ne doit pas être noire ou encore solution finale.
Selon Jiří Leština, ce contexte qui permet aux candidats de surfer sur des thèmes racistes vis-à-vis de certaines minorités incombe à l'ensemble des gouvernements qui n'ont jamais fait le nécessaire pour mener un travail social efficace auprès des SDF et dans les ghettos.
C'est déjà la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et pour plus d'informations sur l'actualité tchèque, rendez-vous sur notre site internet www.radio.cz/fr. C'est Denisa Tomanova qui a eu plaisir de vous présenter cette émission. À bientôt de nouveau sur Radio Prague.